bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast cinéma qui n'intéresse personne.
Moi, ça m'intéresse encore.
Oui, moi aussi, mais
bah, ça va,
apparemment, ça, nous, ça nous intéresse, puis on passe des soirées sympas à faire ces trucs, mais enfin, des fois, on se demande quand même si ça a une raison d'être, mis à part de nous, de flatter notre cinéphilie, je sais pas. Non, de parler de choses qu'on aime, sauf que je même pas...
Échanger sur
nos
le sujet, ça fait
échanger
plaisir.
Sur des sujets qui, visiblement, faut y être... Non, mais il y a des gens qui ont d'autres choses à faire, ils vont se rattraper. Alors, on a décidé aujourd'hui, avant Pâques, on s'est dit à Pâques, on va regarder Joyeuse Pâques avec Belmondo. Hein, comme chaque année, en tout cas moi, non, je crois qu'on peut plus. Non, on a décidé que c'était une bonne. Non, c'est pas du tout une bonne période, mais ça fait rien pour parler d'un personnage que tout le monde connaît, Hannibal Lecter. Lecter.
Non, Lecter.
Sauf dans. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est un peu comme Dark Vader et Dark Vador. Hein. Il y a deux, trois petites anicroches comme ça. À travers les différentes adaptations cinématographiques qu'il y a eu de ce personnage hautement emblématique, en tout cas depuis qu'il a été incarné par Anthony Hopkins, qui a fait pour beaucoup dans la popularité de ce méchant ultra charismatique. Et on va essayer de ne rien oublier et de tout vous faire. Parce que moi, je me rends compte encore maintenant qu'il y a quand même beaucoup de gens déjà qui confondent le Silence des Agneaux et le Seigneur des Anneaux. Mais ça, je crois que c'est normal. On va forcément se brouter une fois. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas, le premier film qui va nous intéresser. Je pense qu'on va aller faire dans l'ordre chronologique de sortie en salle. Mmh. Un film qui s'appelle... Le Sixième Sens en français, contrairement, donc ça n'a rien à voir avec le film de M. Night Shyamalan qui s'appelait Sixième Sens en français, je pense que c'est à cause de ça, qui s'appelle en anglais Manhunter et qui est basé sur le premier livre de Thomas Harris qui met en scène Hannibal Lecter qui s'appelle Dragon Rouge. C'est un film de Michael Mann réalisé en 1986, juste à sa sortie de Miami Vice. Je crois que la série n'est pas finie, mais il a lancé le truc et puis il part faire son deuxième long métrage. Il y a La Forteresse Noire avant, je crois que c'est le premier.
Il y a Solitaire.
Ah oui, absolument. Il y a Le Solitaire qui est vraiment bien. Et il y a La Forteresse Noire dont je ne suis jamais, auquel je n'ai jamais arrivé au bout. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais j'en arrive jamais à bout. Je trouve ça extrêmement pénible. Après, il n'y a aucune copie correcte qui existe, donc peut-être ça n'aide pas. Et puis, il y a ce Manhunter qui avait été produit par Dino De Laurentiis. Moi, je me souviens que le film était sorti en salle, je crois, ici. Je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu en vidéoclub chez CBS Fox qui sortait tous ses films. Dino De Laurentiis, il y avait Blue Velvet qui était sorti à peu près à la même époque. Et je l'avais... Non, c'est pas vrai. Je dis des bêtises. Je l'ai vu sur France 2, juste après, je pense une année après, qui était passé un jeudi soir à 22h40 ou un truc du genre. Parce que ce film avait été, si je ne dis pas de bêtises, un échec commercial cuisant.
Oui, c'est totalement, juste, hein. Totalement. C'est un film aussi qui a été malmené par la critique. Beaucoup de gens avaient des problèmes avec le style très, on va dire, ouais, classiquement MTV de Michael Mann, alors que le film n'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement flash, un travail sur les couleurs, une bande originale dont je ne suis pas fan, mais qui est effectivement très...
Moi, je connais, Jean-Yves, si tu nous écoutes, je connais un type, en tout cas, qui est un fou furieux de la BO, et je connais quand même quelques-uns hein, qui sont des fous furieux de cette bande originale.
Donc oui, un échec, un film qui n'était pas non plus porté par des stars, et puis par contre adapté d'un livre qui lui était un beau succès. C'est un livre de 1981, donc c'est des adaptations hein, dans ces films dont on va parler, des romans de Thomas Harris hein. Ouais. Et Red Dragon, Dragon Rouge a été extrêmement bien reçu, et c'est vrai que tout le monde attendait ce film avec, je dirais, ceux en tout cas qui avaient lu le livre, avec beaucoup d'impatience. Il y avait une certaine déception peut-être pour un film, je ne sais pas si le public était prêt à ce genre de long métrage, et je ne parle même pas de l'esthétique, mais au niveau de son rythme, au niveau de... C'est quand même quelque chose de très atmosphérique, c'est quelque chose certes de très violent. On voit que Michael Mann est fasciné par la psychologie des tueurs, mais jusqu'à un point où ça devient parfois un peu morbide. On voit qu'il a aussi extrêmement travaillé avec les profilers. Je crois qu'il...
Mais c'est
eu...
la première fois, je crois, qu'on parle vraiment de profilage dans un film. J'ai pas, en le revoyant, moi je l'ai revu il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et je me suis dit, mais bon sang, est-ce que c'est pas la première fois qu'on nous parle vraiment d'un flic qui doit se mettre à la place d'un serial killer ? Et c'était très déstabilisant à l'époque, mais moi j'ai pas souvenir d'un film antérieur à celui-là où on aborde ce sujet-là de manière assez frontale.
Ouais. Je suis pas sûr. D'ailleurs, dans la troisième saison de Mindhunter, la fameuse série sur Netflix,
qu'on verra jamais.
Fincher, il devait justement parler du tournage de ce Mindhunter. Ouais. Et c'était donc, je pense que tu as raison. Je pense que c'est un des premiers films sur le sujet. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu ce film en salle.
Ah oui.
Et oui. Quelle et chance. J'ai été
T'as le bol à l'époque ou bien tu te dis Michael Mann, tu savais déjà qui c'était
Je savais déjà qui c'était à cause de Miami Vice.
Ouais.
Et puis, je dois dire que c'est un film qui m'avait assez déstabilisé. Parce qu'évidemment, on peut s'attendre à quelque chose de plus, avec beaucoup plus de rebondissements. On a l'impression que ce film, est, à part 2-3 scènes choc, et pas vraiment dans les codes habituels du film de track, de tueur. Mais c'est justement, je pense, à cause de l'approche de Michael Mann qui essaye d'entrer dans l'univers mental. Alors, c'est quoi le pitch quand même, hein, il faut le dire, hein, alors, c'est particulier.
Revenons quand même sur l'esthétique, je crois que c'est important. Parce que moi, toi, je ne crois pas non plus. Je crois que tu n'es pas très fan de Miami Vice, la série. Moi, je ne suis pas...
Moi, ça va.
Toi, tu aimes bien ?
Ouais, ah,
bien. J'ai toujours un peu de peine d'entrer dedans. Mais je trouve qu'il y a une attitude un peu similaire dans l'approche. C'est-à-dire qu'on est sous le soleil, on est dans une ambiance qui devrait... Enfin, comme toujours chez Michael Mann, on nous met une ambiance très blanche, très lumineuse, où tout est censé être clean. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on commence à gratter à peine, ça ne va pas du tout, quoi. C'est la noirceur devant. Et je pense que c'est ça qui a déstabilisé à l'époque, parce que quand on voit cette esthétique, on s'attend à un truc, effectivement, un truc beaucoup plus péchu. Moi, il y a un autre truc, on dit qu'il n'y a pas de star dans ce film, effectivement, mais il y a quand même un truc qui est assez étonnant, c'est William Peterson, que les gens connaissent surtout pour la série Les Experts, c'est ça, hein, dans les premières saisons, qui joue une année avant, si je ne dis pas de conneries, dans un film qui s'appelle Police Fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA de William Friedkin, qui était aussi un échec cuisant en salle, qui était aussi une manière complètement autre de montrer des flics. Et moi, j'ai toujours trouvé que ces deux films à côté, ce n'est pas des diptyques, mais il y a vraiment quelque chose qui les lie, au-delà du fait qu'on ait le même personnage principal, qui est finalement les deux seuls grands rôles qu'il a eu au cinéma.
Oui, ce sont tous les deux des films extrêmement sombres. Hein.
Lumineux mais sombres.
Sombres. C'est vrai que, on dit qu'il n'y a pas de star dans ce film. C'est vrai qu'au début, Michael Mann avait d'autres ambitions. Hein. Il voulait, pour le rôle principal, il avait même, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il avait même envisagé Paul Newman dans un rôle évidemment d'un enquêteur plus âgé.
Ouais.
Et puis alors, ce qui était amusant, c'était que pour le docteur Lecter, comme il l'appelle ici.
Il s'appelle docteur Lecter
dans ce film.
En anglais aussi, je ne sais pas, mais je crois. Hein.
Il voulait William Friedkin, justement.
Ah oui, c'est une bonne idée,
voilà.
Ça.
Et pour finir, ça s'est pas fait. Il voulait ensuite Brian Dennehy. Et Brian Dennehy lui a recommandé, justement, Brian Cox, qui est un acteur anglais, qui est aujourd'hui la star de la série Succession. Pardon.
Alors, ça a été un second rôle permanent. Il n'était pas le salaud dans Rob Roy. Ce film, tout le monde a oublié, avec Liam Neeson, qui n'était pas si mal.
C'était Tim Roth qui était...
Oui, mais il joue dedans. Alors,
il joue dedans. Ouais.
Et moi, je trouve qu'il est très bien, Hannibal Lecter.
Alors, ce qu'il faut dire, si on parle d'Animal Lecter, c'est qu'il est très peu. Il a quelques scènes, je crois c'est 2-3 scènes, et il est vraiment glaçant. C'est aussi une autre esthétique que celle qu'on verra dans Le silence des agneaux, puisqu'il est dans sa cellule, tout est blanc.
Ouais, moi, je trouvais que c'était très, très fort, parce que dans tous les autres qu'on aime bien, mais tout est fait pour qu'on soit quand même déjà dans une ambiance, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un sous-sol, dans une espèce de cave voûtée, c'est la dernière cellule, il faut passer devant des autres psychopathes, donc on est déjà dans une contextualisation qui font que ça fait la moitié du job. Ça ne veut pas dire qu'Anthony Hopkins n'est pas formidable, mais le fait de mettre Brian Cox dans une cellule complètement blanche, immaculée, avec strictement rien...
C'est un côté clinique, quoi.
C'est un côté clinique, mais ça montre à quel point Brian Cox, il est bon,
mm-hmm.
et puis que ça le fait tout à fait. Je suis à peu près convaincu qu'il aurait pu faire Hannibal Lecter dans les films suivants. Enfin, ça ne sera pas le cas, mais il aurait tout à fait pu rempiler. Alors, le pitch, vas-y, je t'en prie.
C'est donc William Peterson qui interprète Will Graham, qui est donc un profiler qui a la particularité de pouvoir se mettre à la place des serial killers. C'est-à-dire qu'il ressent, il comprend la façon de penser, d'agir des serial killers. En l'occurrence, ici, il s'agit de traquer le tueur à la clé au clair de lune qui s'appelle Francis Dolarhyde. On le découvre après dans le récit.
Mais l'acteur qui joue Tom Noonan,
Tom Noonan, il
est incroyable, quoi.
Oui, oui.
Il a une tronche.
Il a d'ailleurs, soit dit en passant, il foutait la trouille à tout le monde sur le tournage parce qu'il s'est complètement isolé.
Oui, mais ça m'étonne pas.
Et il a vraiment été jusqu'au bout, mais c'est un type, paraît-il, adorable.
Oui, mais il a vraiment une tronche
physique très, très
impressionnante. Tu pourrais tout à fait l'avoir dans Zodiac, dans dans un des potentiels
tueurs. Oui, hein, exactement. Et donc, il s'agit effectivement de retrouver ce tueur qui va s'apprêter à frapper. Et donc, pour ce faire, Will Graham, qui a attrapé Hannibal Lecter, va lui rendre visite en cellule et cherche à avoir des conseils de la part de celui-ci. Alors là, c'est le même principe que ce qu'on retrouve dans Le Silence des Agneaux. Et ensuite, on est justement dans quelque chose de très immersif, puisqu'on suit Will Graham dans cette enquête qui n'arrête pas d'essayer de se mettre à la place du serial killer pour le comprendre, pour anticiper sa prochaine action. Et ce qui est intéressant dans le livre et dans le film, c'est qu'au bout d'un moment, ça bascule et on commence à suivre le quotidien de Francis Dolarhyde, qui est en fait qui travaille dans un laboratoire photo. Hein. Et là, il commence une romance avec une jeune femme aveugle, qui est interprétée ici par Joan Allen, qui est une actrice que j'adore. Et donc ensuite, on va.
Il y a cette fameuse scène du zoo avec un tigre endormi et tout ça. C'est assez charnel. Non, je trouve que on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai un petit plaisir coupable à regarder Dragon Rouge parce qu'on est dans nos codes. Mais évidemment, le sixième sens, à mon avis, est beaucoup plus puissant. Je ne parle pas au niveau de l'esthétique, je parle juste au niveau des acteurs, de leur implication et de l'écriture des personnages. Voilà.
Alors, bon, ce que je trouve aussi, c'est que les gens l'ont fait remarquer aussi par la suite, c'est qu'il y a... C'est quand même, chez Michael Mann, on a l'impression que c'est très flash, esthétique, enfin, certains pourraient dire un petit peu pour la frime, pour le style, alors que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est vraiment obsédé du détail, et notamment dans ça s'est vraiment souligné après, dans le travail des couleurs. Donc c'est justement cette ambiance entre le bleu rassurant, le vert qui est la couleur des serial killers, et quand regarde le film,
c'est la couleur des serial killers.
Disons de cet univers justement de détraqué.
Il y a
ça,
une raison.
Oui, c'est vraiment des couleurs en psychologie qui reflètent un petit peu le côté apaisant, déstabilisant. On voit très bien, par exemple, quand Will Graham, avec sa cravate, va rendre visite au docteur Lecter, il y a du travail sur les couleurs. Donc évidemment, je l'ai lu par après, mais ça montre que ce film est beaucoup plus que ce qui donne l'apparence d'être. C'est-à-dire, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment une tentative, je pense, tu l'as dit, c'est le premier à entrer dans cet univers du profiling, mais c'est de le mettre à l'écran, cette démarche, ce côté extrêmement psychologique. C'est un jeu psychologique, un jeu dangereux qui consume l'âme de ceux qui le pratiquent au quotidien. Clairement. Et c'est un film plutôt là-dessus, c'est pas une simple enquête.
C'est marrant parce que je t'entends parler de ça, je vois le film, mais j'ai l'impression que les gens qui auraient peut-être pas vu le film, ils ont l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Ils pourraient nous dire « oui, mais l'eau, ça mouille ». Parce que c'est devenu tellement banal de nos jours, dans n'importe quelle série Netflix, dans n'importe quoi, d'avoir des profilers ou qui sont extrêmement travaillés comme dans Mindhunter ou alors dans des séries à la mort moelleux. Hein, voilà. Mm-hmm. Mais c'est devenu une normalité, vraiment.
Alors,
est-ce que ce film... mais en même temps, est-ce que ce film pourrait être apprécié par des gens qui le découvrent maintenant? Il a un côté « too much 80s » quand même.
Mm-hmm. Oui.
Je ne sais pas.
Après, je trouve quand même, quand on regarde...
Moi, j'adore. Hein.
C'est une bonne adaptation de Red Dragon. Moi, je précise d'ailleurs les films dont on va parler. J'ai lu les livres, à l'exception du dernier.
Je vois.
Et j'aime beaucoup le style de Thomas Harris. Je les avais lus il y a longtemps. Et c'est une excellente adaptation. C'est vrai que peut-être c'est un film aujourd'hui, tu dis on enfonce les portes ouvertes, mais aujourd'hui c'est souvent trop, après des films comme Seven, comme ça, ça devient un peu un gimmick, le profiling, c'est une idée de suspense, alors qu'ici c'est vraiment comprendre, donc ce métier, entrer dans cet univers des serial killers et l'aborder de manière réaliste.
Pardon.
Non, c'est rien.
Est-ce que Michael Mann avait une intention à ce niveau-là ? De dire « Ah, je vais vous montrer vraiment ce que c'est que du profilage.
» Oui, c'est-à-dire que Michael Mann, il est passionné de travail de police, il est passionné de psychologie, et c'est aussi quelqu'un qui a une correspondance. Alors, il a fait une correspondance avec un serial killer pendant 2 ans.
Ah, c'est quand même du lourd, quoi.
Il s'appelle Dee Wallace.
Dee Wallace, c'est la maman d'E.T.
Non, mais il s'appelle Dee Wallace ou Billy Wallace.
C'est comme John Wayne. Il y a John Wayne et il y a John Wayne Gacy.
Alors, ceux qui connaissent très très bien le film sauront exactement le nom du bonhomme. Mm. Mais il a fait cette correspondance. Donc, Michael Mann ne vient pas pour simplement faire un divertissement. Il cherche effectivement à aller au cœur de toute sa filmographie, c'est filmer des gens au travail. Le solitaire, Heat, c'est vraiment aller au quotidien, voir le quotidien de ces personnes.
À cœur.
Et, alors ça, c'est un peu différent, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça chez lui. Et, on voit, et ça se voit dans le film. Et c'est vrai que c'est un, moi, pour moi, c'est une curiosité, en fait. Je trouve qu'il a vraiment vieilli. Moi, j'ai un problème avec cette musique qui est typiquement Michael Mann, qui fonctionne bien, hein, c'est pas la question.
C'est très Miami Vice, on dirait une compile Miami Vice, In the Air Tonight.
Ouais, c'est pas assez pop pour moi.
Ouais, ouais, mais...
c'est plus rock, mais c'est ce genre-là.
Ouais, c'est vrai que c'est plus rock, ouais.
Et, mais,
puis il y a ce morceau. In a good vida. Alors, don't you know that I love you?
C'est Iron Butterfly. C'est bien celui-là.
Qui n'est pas sur la BO, je crois d'ailleurs, mais qui est une scène, je veux dire, ultra effrayante. Moi, je me souviens quand j'avais vu ce film, alors on ne va pas spoiler, mais c'est vraiment un moment clé du film. Ouais. Et quand on entend ça, waouh, quoi. Mais rien que d'en parler, c'est un peu les poils qui se dressent dans la nuque, quoi. C'est waouh, c'est super effroyable, quoi. Et je ne connaissais pas ce morceau avant. Et c'est un groupe hyper culte, 70s, qui a fait quelques albums, dont surtout cette chanson-là, In a Gada da Vida, qui dure 20 minutes. C'est assez pénible si vous voulez l'écouter en entier. Enfin, excuse-moi, Jean-Yves, il y a des gens qui adorent ça et je comprends tout à fait. Donc, tu lui mets quelle note? Donc, c'est une curiosité pour toi, vraiment? Ah non, bah, pour moi, alors,
disons, quand je dis curiosité,
t'as un maître étalon,
ouais, je le regarde avec curiosité, c'est-à-dire que c'est plus que ça, bien sûr, parce que c'est une référence du cinéma. Mais je trouve vraiment qu'il a pas mal vieilli. Ça reste quelque chose d'assez fascinant. Je trouve le travail sur la photo, pour toutes ces raisons, cette espèce d'ambiance étrange, décalée, je lui mettrais un 8.
Ouais, ouais, moi j'irais jusqu'à 9. Quoi. Je suis un peu simple. Et puis, Police Fédérale Los Angeles, tu y mets combien?
Ah, ça j'aime mieux alors encore. Ouais.
Oui, je trouve encore mieux.
Ouais, allez, mais bon, allez, ouais, 8 et demi, 9. Voilà.
Regardez Police Fédérale Los Angeles si vous l'avez jamais vu. Alors là, la musique est bien, Wong Chung.
Oui.
Bon, on en parlera une fois. On fera un épisode William Friedkin, je crois, quand même. Même si on a déjà parlé de Sorcerer, on s'en fout. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet vraiment, puisque ce film-là est un échec, ne fonctionne pas, est vite oublié, un passage à la télé, une sortie en VHS. Je crois que le film a mieux marché en vidéoclub qu'en salle.
Oui, oui. C'est...
Mais il faudra quand même attendre Le Silence des Agneaux pour que le personnage d'Hannibal Lecter devienne, déjà s'appelle Lecter, et devienne connu tout le monde, avec un film qui devient... un phénomène de société, c'est même pas un succès populaire. C'est la première fois qu'un film qualifié au registre horreur est nommé aux Oscars et reçoit des Oscars. Je crois que c'est le premier film qui était déjà en vidéoclub quand il a reçu des Oscars, ce qui était théoriquement interdit, mm-hmm. je crois, quasiment.
Parce qu'il était sorti il
s'est sorti depuis
l'année.
Quasiment une année, donc 11 mois et des poussières. Et c'est la confirmation définitive de Jodie Foster. Elle était déjà confirmée, mais c'est vraiment... Alors, il y a eu Les Accusés, puis il y a celui-là qui vraiment... Elle a eu un Oscar pour celui-là.
Oui.
Elle a eu deux Oscars de suite. Donc oui. Les Accusés et pour
Tiens, c'est pas deux de suite, mais elle a eu le deuxième. Parce que Les Accusés, c'est 89, là, c'est 92.
Oui,
mais
enfin, oui, non, c'est... mais c'est pas deux de suite, deux années de suite, mais c'est vraiment assez rapproché.
Oui.
Et moi, j'ai découvert, il y a déjà un moment, parce que c'est devenu une autorité publique, c'est que théoriquement, c'était Gene Hackman qui devait réaliser le film.
Qui devait réaliser le film.
Je crois qu'il a jamais réalisé un film, Gene Hackman. Et il a lâché l'affaire parce que c'était beaucoup trop violent. Sauf erreur, et les droits avaient atterri chez Orion, qui est une boîte défunte qui appartenait d'abord à la Warner, et puis après qui est devenue indépendante, qui a fait faillite peu de temps après. C'est de ces boîtes un peu firmament, où apparemment tout était possible, hein. Tu regardes les films produits entre 1984 et Le Silence des Agneaux, à peu près chez Orion, il y a quasiment que du bon, quoi. FX, Veuve mais pas trop, Married to the Mob, je sais plus comment ça s'appelait en France, c'était assez cool.
De Jonathan Demme.
Exactement, le Comme un chien enragé. Enfin voilà, il y a plein de films qui étaient estampillés par cette espèce de société entre une major et une indépendante. Et Le Silence des Agneaux est pas, c'est un peu un projet qu'ils ont, mais c'est pas un truc, je crois, sur lequel ils misaient beaucoup de, ils auraient pas forcément misé tous les chevaux là-dessus, quoi.
Alors bon, moi je me rappelle avoir.
Je dis des conneries, ce qui est possible.
Non, mais je veux dire, c'était, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même un projet extrêmement recherché. À Hollywood. Pourquoi ? Parce que le bouquin était vraiment un gros carton.
Donc plus que le premier.
Oui. Et moi, j'ai lu, je me rappelle, en 1989, je pense. C'est un bouquin de 88. Donc une année et demie après, j'ai lu ce livre. Et je me rappelle avoir complètement été... ce livre a eu un impact incroyable sur moi quand je l'ai lu.
Ah oui, donc t'as lu le bouquin avant, ouais, que le film existe.
Exactement.
Donc ça, c'est déjà intéressant.
Pour moi, j'étais vraiment frappé par ce livre. J'en parle comme ça parce que je suis pas un grand lecteur. Je lis moins qu'avant. Mais ce livre-là...
J'ai toujours dû être un lecteur occasionnel qui n'est pas du tout lecteur.
Je sais pas. Mais l'écriture de Thomas Harris, Alors ça m'a encore beaucoup plus marqué que sur Dragon Rouge. Il y avait quelque chose d'extrêmement ciselé à l'économie. Et c'est vraiment, alors c'est typiquement, ça m'a fait penser à l'époque, quand je l'ai lu, à du Stephen King, c'est-à-dire qu'il écrit d'une manière où tu vois déjà ce que ça pourra donner à l'écran. Il l'oriente presque, c'est-à-dire que si tu fais bien ton travail, en lisant Le Silence des Agneaux, tu peux presque imaginer le film qu'ils en ont fait.
C'est déjà un storyboard, quoi.
Ça ressemble un petit peu à, ouais, à ça. Et donc, c'était un gros succès. Et tu parlais de Gene Hackman. Il parlait, à l'époque, hein, pour le casting, de Jack Nicholson pour le Dr. Lecter. Ça aurait été, ouais, quand même marrant, mais ouais, alors, pas,
si,
pas
si
une bonne idée.
S'il l'aurait fait Joker, je ne suis pas sûr que c'était une très
pas
ouais,
une bonne idée.
Je suis pas sûr que ça,
mais pour dire qu'il y avait quand même une attirée. Et puis, il y avait Michelle Pfeiffer, qui, à l'époque, était quand même une actrice qui,
ouais,
commençait à être,
c'est juste,
confirmée.
Je ne sais pas pourquoi elle a lâché le truc, finalement.
Trop violent aussi. Parce que c'est vrai, quand tu lis le bouquin, ça ne rigole pas.
Et par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'Anthony Hopkins, c'était un peu le lapin sorti du chapeau, parce qu'il était vraiment dans le creux de la vague complet. Je crois même qu'il était complètement alcoolo. Enfin, je veux dire, il était vraiment, mais pas. C'est comme Michael Caine à l'époque, quoi, qui joue dans Les Dents de la Mer 4. Enfin, voilà. Il a une carrière dans les années 70. Il y a Elephant Man. Puis après, il y a un peu le creux de la vague, quoi.
Il a volté du Bounty, ce genre de truc.
Oui,
des rôles pas terribles, quoi,
ouais,
effectivement.
Et là, je sais pas comment ils ont fait pour miser pour confier ce rôle à Anthony Hopkins, finalement. Tu sais, toi ?
Non, je sais pas.
Ouais, moi, je sais pas non plus. Ben voilà, on fait mal notre job. On en a aucune
idée. Mais
ça
fait rien. C'est ce qui est sûr, c'est que. C'est vraiment peut-être une de ses premières performances quand on parle des grands méchants du cinéma, très dans des films qui sont des films grand public, et puis finalement le méchant apparaît que je crois en maximum 20 minutes à l'écran.
Ouais, je pense pas plus.
Et il ramasse un Oscar pour ça, pour 20 minutes.
Second rôle ou carrément
premier rôle, ouais.
Ouais, alors ça, c'est quand même particulier des,
ouais,
fois. Hein.
Et c'est vrai que ça a marqué. Il s'est tellement approprié le rôle, ça a vraiment marqué une génération de spectateurs. Vraiment, c'est un peu l'équivalent, avec le recul, comme Heath Ledger qui interprète The Joker dans Dark Knight.
Ouais, ouais.
C'est ce genre de performance. C'est-à-dire qu'on peut trouver que c'est too much, c'est très théâtral, mais il y a une présence physique, il y a une voix, il y a un regard, c'est parfait.
Oui, mais c'est arrivé à un tel point qu'il y a certaines tirades qui sont dans l'inconscient collectif, quoi. Ouais,
exactement.
Et puis je vais manger le foie avec des fèves et du Chianti, un truc du genre. Enfin voilà. Et je crois que Jonathan Demme, donc le réalisateur du film, qu'on en a parlé dans le dernier épisode, écoutez l'épisode d'avant, puisqu'on a parlé de Jonathan Demme, c'est quand même un réalisateur un peu à la carrière un peu étrange. Je crois qu'il s'est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on lui a confié le film parce que Mariette de Meubles, je sais plus comment ça s'appelait en français, Veuve mais pas trop.
Oui, je crois que c'est possible.
Et puis Dangereux sous tout rapport, le film avant avec Melanie Griffith, avait suffisamment bien marché pour qu'on se dise il est dans le studio, on lui confie les rênes de ce film-là, quoi. Et je me demande si ce film aurait aussi bien fonctionné s'il avait été réalisé par quelqu'un d'autre, de plus confirmé, j'en sais rien, parce que, encore une fois, j'ai pas lu le livre, je suis un très mauvais juge, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a un côté très fidèle au matériel original.
Oui, c'est celui qui l'a adapté, c'est Ted Talley, qui est vraiment réputé. Il n'a pas fait énormément de scripts, mais il a adapté celui-ci. Il a adapté ensuite, après aussi, je crois, Dragon Rouge, pour le film dont on parlera après. Et c'est vraiment un modèle. Il a reçu l'Oscar aussi. C'est vraiment un modèle de script. Et c'est vrai que Jonathan Demme, il a aussi fait, si je ne m'abuse, il a aussi fait du documentaire. Et son approche n'est pas dans le thriller début 90s,
ah, quand même un peu.
Oui, mais c'est, si tu regardes le film, c'est quand même à cause de la musique d'Howard Shore aussi, c'est extrêmement, il y a un côté assez, c'est, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le rythme est quand même assez lent, assez, je sais pas comment dire, il y a un côté un peu funèbre dans ce,
ouais,
truc.
Ouais, mais en même temps, on est
glaçant.
Dans tout de suite, je veux dire, le générique de début où tu vois Jodie Foster qui court dans la nature. Tu dis, mais putain, il y en a un qui va se faire dézinguer. Enfin, on est déjà tout de suite dans une ambiance fin d'automne, les feuilles tombent, il y a du brouillard, enfin, c'est pas très agréable. Mais en même temps, le film n'est pas. Moi, je trouve pas que le film est particulièrement glauque.
Je trouve froid,
oui,
fait, mais je l'aime beaucoup. Hein.
Mais moi, je suis pas tout à fait. Moi, je suis pas du même avis que toi. Je trouve que c'est peut-être le premier film qui ancre cette espèce de truc des polar 90s qu'on aime bien, des thrillers. Il y a un côté beaucoup plus film d'auteur et moins film du samedi soir. Mais n'empêche que, moi, je me souviens très bien quand le film est sorti. C'était un succès populaire du samedi soir, Le Silence des Agneaux.
Ouais, pour moi...
Ça marchait assez vite. Hein.
Oui, c'est pas la question que ça marchait, mais pour moi, c'est la même catégorie que Seven. Ça veut dire que ce sont des films qui sont dans un genre particulier, mais les réalisateurs et la combinaison des artistes qui ont travaillé dessus font que c'est quelque chose qui peut pas... Tu peux pas les comparer aux thrillers des années 90. Alors bien sûr, ils sont extrêmement bien réussis, mais c'est, moi, quand je parle des thrillers 90s, tu penses au fugitif, tu penses à quelque chose de, qui va vite, qui pulse, avec, des petits, avec un peu d'humour. Ici, c'est quand même extrêmement travaillé au niveau de la psychologie. Ça prend
son temps. Mais
tu
t'emmerdes pas une seconde.
Ah ouais, c'est pas la question. Mais c'est très froid. Le Jack Crawford, qui est Scott Glenn, il est, tu vois, avec comment, justement Jodie Foster, qui est aussi une femme. Il y a ce côté dans un milieu masculin. Et ben, c'est pas traité avec humour. C'est traité avec quelqu'un. Tu vois que Jodie Foster, elle souffre. Tu vois que Hannibal Lecter, il fait pas vraiment, ouais, il fait de l'humour, mais vraiment extrêmement noir.
Oui, mais il y a le Dr Shilton quand même.
Ouais.
Il est drôle. Comment il s'appelle cet acteur? Il est formidable. Second rôle, il joue dans l'affaire Pélican aussi. Il joue
une espèce de
petit sourire, il se pince les lèvres, une espèce d'enfoiré de base. Moi, je vois le Dr Shilton arriver, mais je suis mort de rire.
Mais c'est pas.
Enfin, mort de rire, pas mort de rire. Ah, c'est le bouffon du coin.
Oui, mais il vient pas là pour faire de l'humour. En fait, il est, c'est un bouffon.
Voilà, j'allais dire, il y a quand même un côté bouffon, j'espère.
Mais
personnage,
c'est un peu
quoi.
Glaçant. Et, pour moi, c'est un. Je suis d'accord dans le fait qu'alors il se passe énormément de trucs, ça pulse en termes des événements et des surprises. Mais pour moi, c'est quelque chose de très pesant, d'assez froid. Et je l'ai vu récemment, c'est plutôt un film assez glaçant et le côté en guillemets chaleureux ou sensible, il est donné par la performance de Jodie Foster qui doit aller se connecter avec sa souffrance passée d'enfant puisqu'elle est psychanalysée par Hannibal Lecter. Hein. C'est de nouveau le même au niveau du pitch, c'est la même situation, c'est une jeune profiler. Cette fois, c'est Buffalo Bill qui est un tueur qui enlève, enfin qui parti pour faire un qu'est-ce qui pour changer de sexe et de faire un en fait qu'est-ce qu'il prend, il tue des femmes
pour prendre la peau pour en faire une espèce d'habit un costume de nounours ou je sais pas, c'est pas vraiment quoi,
et c'est de nouveau Hannibal Lecter qui va donc donner conseil, orienter Clarisse, tout en le quid-pro-quo, le fameux truc, c'est-à-dire qu'il essaye d'obtenir le quid-pro-quo, ouais, je crois que c'est ça.
Pro-quo.
Et il essaye d'obtenir des informations sur elle, et en échange, il lui donne des informations.
Mais c'est marrant, parce que moi, quand j'ai vu le film, je ne savais pas du tout, moi, je m'intéressais pas vraiment, outre mesure que j'allais voir beaucoup de films, que j'aimais le cinéma, mais je ne sais pas qui était Thomas Harris, et quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais c'est du plagiat, c'est quoi cette histoire, ce personnage, ça me dit quelque chose, c'est le même... Enfin voilà, donc puis après, en grattant un peu... on faisait les grands malins, on disait « Ah, t'as pas vu Manhunter ?» Regarde ce truc, c'est quand même vachement bien. Même si, dans l'absolu, je pense que l'étude des personnages est plus intéressante dans le Michael Mann.
Oui, c'est possible.
Mais je préfère le Silence des Agneaux, largement, quoi.
Oui. Je sais pas trop à quoi ça tient, parce que... Comment dire ça C'est un film qui est quand même un petit peu inclassable. Je n'arrive pas à trouver un point de comparaison pour ce film. Et je ne sais pas ce qui fait que c'est comme ça. Est-ce que c'est la nature même du scénario? Est-ce que c'est cette mise en scène qui est très assez sobre? Et puis, il y a quand même beaucoup cette musique d'Howard Shore, à mon avis, qui fait beaucoup. Alors, peut-être que je fais le pont avec Seven, parce que la musique aussi d'Howard Shore, est-ce que c'est lui qui m'influence?
Je ne sais pas, parce que la musique de Seven, je ne l'ai pas dans l'oreille, mais c'est Lucien Zéagneau. En un quart de seconde, je l'ai dans l'oreille. Alors,
elle est un peu plus mélodique.
Il faut avouer que j'ai eu la chance, je crois, de voir Le Silence des Agneaux, qui est sorti plusieurs fois en salle. Il est sorti, il est ressorti, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Hein. Il est repassé dans le milieu du cinéma. Moi, je sais que je l'ai vu en salle 4 ou 5 fois. Mais presque par hasard, c'est-à-dire que j'étais au bon endroit au moment où je bossais dans les cinémas, ah il repasse le cinéma, ah il y a une nuit du cinéma, ah il y a nouveau le Silence des Agneaux, ben on va le regarder encore une fois. Et c'est vrai que moi ça fait partie de ces films que j'appelle les films doudous, c'est-à-dire que tu me le mets maintenant, je me pose devant, je le connais par cœur, je ne m'ennuie pas un quart de seconde. J'ai pas une impression de lassitude, alors évidemment je le regarde pas une fois par semaine, mais j'ai en tout, je pense que alors celui-là j'ai dû le voir 15 fois, je pense, facile. Mm-hmm. Et je me lasse jamais. Tu me dis maintenant, on se pose, on arrête ce podcast qui intéresse personne, on va regarder Les Sciences des Anneaux. J'ai presque envie de te dire, est-ce que ça serait pas une bonne idée?
Ça ne serait certainement pas une mauvaise idée. Moi ce que j'aime encore dans ce film, je réfléchissais en fait, pourquoi, c'est que aussi.
Tak Fujimoto.
C'est que aussi.
Une fois que je dis le réalisateur, le directeur de la photo.
Je pense qu'il y a aussi ce côté où ils arrivent à faire de cette présence de lecteurs. Quelque chose qui tient, qui pèse sur tout le film comme ça, alors qu'on le voit très très peu à l'écran. Et il y a cette... c'est aussi la composition de Anthony Hopkins. T'as vraiment envie de le retrouver. t'as envie qu'elle retourne chez lui.
Ouais, mais quand puis, on va le retrouver,
et ben
toi tu vas aimer. Toi tu vas aimer. Ah non, mais je croyais que tu allais directement faire le pont sur le film suivant.
Non, mais
ils ont envie de le revoir, quoi.
Oui,
c'est pas une bonne idée de recroiser ce personnage. J'ai un vieil ami pour déjeuner. Je peux pas faire long au téléphone, c'est ça.
Non. Puis je dis, j'ai la scène d'évasion, quoi, qui est quand même une masterclass de je trouve, de tension, de comme c'est composé, l'évasion. De lecteur, tout le monde sait ça, de toute façon tout le monde a vu le film.
Ah, mais c'est ça qui pique au Dr. Shitton, il a un crayon qui tape toujours entre les dents,
ouais.
Et il lui pique la bague ou la tige du crayon pour arriver à enlever les menottes et faire un petite fin pas très agréable à des gardiens qui n'avaient rien demandé finalement. Mais ouais, c'était un film, c'est marrant parce que souvent, je sais pas toi, mais moi quand je parle à des gens en disant j'aime bien les films d'horreur, je dis ah moi j'aime pas les films d'horreur, j'en ai vu qu'un dans ma vie, c'est Le Silence des Agneaux. Puis je dis mais c'est pas un film d'horreur. Ils disent bah si, c'est un film d'horreur. Alors ouais, c'est vrai que c'est moi je le
classe là-dedans.
Ouais, moi je le mettrais pas complètement là-dedans, mais effectivement je crois qu'il faut quand même mieux avoir 16 ans, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est une bonne idée. Mais je sais pas si t'as eu la même impression que moi. Moi je trouve ça pulse tellement qu'il y a des ellipses. Il y a un moment donné, moi j'ai dû voir le film 12 fois pour comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Jack Crawford il est dans un avion, juste avant qu'elle aille sonner. Alors on spoil, mais je pense que tout le monde l'a vu. Qu'elle aille sonner chez les gars, puis il lui donne une indication. Moi à un moment donné, j'ai dit ok, je vais faire un arrêt, je vais revenir en arrière, puis j'ai fini par comprendre. Mais il y a un moment donné, et dans les scènes coupées, on voit que c'est plus long. Ils ont raccourci un peu le truc, et ça changerait au plaisir de spectateur, mais je trouve qu'il y a une tout petite anicroche de scénario où si on n'est pas assidu à écouter tous les noms des protagonistes, on lâche un quart de seconde d'affaire, on dit ouh là, je sais pas comment ils sont arrivés là, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps de réfléchir, quoi. Bref, on s'en fout. Oui, ça va nous amener au film suivant. Mm-hmm. Hein, alors je vais te laisser parler parce que je n'ai rien à dire sur ce film.
Tu n'as rien à dire,
non,
sur
justement
Hannibal.
Rien. Je n'aime pas ce film, je déteste ce film, je l'ai revu, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt, un quelconque plaisir qu'on peut avoir là-dedans.
Donc
tout m'énerve.
Donc Hannibal,
oui.
Tourné.
Film qui a
été
attendu quand même très longtemps, c'est quoi, 99 ?
2001.
2001 ?
2001, avec...
Jodie Foster ne veut pas reprendre le rôle, c'est juste. Hein.
Alors d'abord, il y a le roman de Thomas Harris, c'est-à-dire qu'il y a volonté, évidemment, de faire une suite assez rapide à ce Silence des Agneaux, et Thomas Harris met le temps pour écrire le roman suivant, et
il sort
en 99.
Ah ouais,
et je l'ai lu, ce livre, et ce livre est complètement barré. C'est-à-dire que cette fois, en fait, on a eu dans les livres précédents Hannibal Lecter qui était en second plan.
Ouais, alors que là, il est frontal, quoi. Bah,
il est frontal, et c'est son nom. Et évidemment, ben, c'est ça que moi, je trouve alors totalement logique. On ne peut pas faire un film sur Hannibal Lecter qui est complètement dément et qui est un cannibale sans aller dans un degré d'horreur. On peut, hein, mais je veux dire, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce personnage, on ne va pas avoir quelque chose de très édulcoré, on va aller clairement dans la folie. Alors la situation, c'est la suivante, c'est que après le Silence des Agneaux, eh bien, Hannibal Lecter s'est échappé, s'est volatilisé dans la nature, et il est terré quelque part, et il y a un horrible bonhomme qui s'appelle Mason Verger, qui est une ancienne victime d'Hannibal Lecter.
Gary Oldman. Hein,
Gary Oldman, qui a été défiguré atrocement par Lecter. Qui essaye de chasser, de retrouver Hannibal Lecter pour en fait se venger, mais aussi comme trophée. Donc c'est un homme absolument horrible. Dans le bouquin, ça c'est une idée tordue qu'ils ont laissé tomber, c'est quelqu'un qui prend un plaisir à récupérer des larmes d'enfants abusés sexuellement. Donc tu vois un peu le degré d'ignominie. Donc ça, ils ont mis ça de côté. Et le livre se termine aussi d'une manière qui a complètement choqué les gens qui l'ont lu, non seulement au niveau de l'horreur, mais aussi au niveau du résultat de cette relation, puisque la relation se poursuit d'abord à distance, mais ensuite de près, entre Hannibal Lecter et Clarice Starling. Et cette fin était tellement choquante qu'effectivement, comme tu l'as dit, Jodie Foster a dit non, exclu. Ce livre trahit, pour moi, hein, trahit mon personnage.
Alors moi j'ai le même sentiment en regardant le film, mais j'ai pas lu le livre.
Et en fait, pour moi, déjà j'ai envie de dire, celui qui fait, qui écrit la saga, ben, il choisit, hein, il fait un peu ce qu'il veut. Donc
ouais,
moi déjà ce qui me plaît, c'est que plutôt que de faire un Silence des Agneaux 2, on fait un autre film. Et
moi j'aime bien les suites qui restent dans les clous, tu sais.
Je suis d'accord. Et donc c'est Ridley Scott qui prend la réalisation.
Après
Gladiator, d'ailleurs, Dino De Laurentiis vient le voir sur le tournage de Gladiator, lui dit, est-ce que tu veux faire Hannibal ? Lui dit, non, moi, je vais pas faire après un film de Romain, un film avec un mec qui traverse les Alpes en éléphant. Puis lui dit, non, c'est pas ça, Hannibal Lecter. Ah, ok. Et il lit le script, enfin, il lit le projet. Et le script, en l'occurrence, c'est signé Steven Zalian, l'excellent... scénariste de beaucoup de... Bon, on a parlé l'épisode précédent de l'adaptation de Fincher de Millennium, ouais. De la liste de Schindler, ouais, notamment.
Ouais. Et puis du Irishman, non ?
Aussi, ouais. Et puis, il y a David Mamet qui fait un polish, hein, ouais, sur le script. Et en fait, Ridley Scott est tellement épaté par ce projet et par la qualité du scénario, donc il accepte, il travaille encore avec Steven Zalian, et il caste donc finalement Julianne Moore, c'est Anthony Hopkins qui accepte. Il avait un peu de doute parce qu'il disait, si je ne vais pas tourner avec Jodie Foster, je laisse tomber. Puis finalement, il réfléchit. Je pense qu'il y a un peu d'aspect financier,
ils ont sûrement rajouté un petit enveloppe sous la
bien
table.
Sûr,
bon,
bien
Julianne
sûr.
Moore, moi, je trouve que ce n'est pas le problème.
Non.
Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, d'ailleurs.
Et Julianne Moore donc, est engagée pour Clarice Starling. Et donc, dans cette, pour terminer le rôle hein, de Clarice Starling ici, c'est qu'elle revient sur l'enquête quand elle a des contacts avec un policier corrompu de Florence, puisque c'est là que se terre. Hannibal Lecter qui est devenu le professeur Fell qui enseigne l'histoire là-bas. Et ça commence avec une espèce de trac et c'est pourquoi j'aime ce film, moi. En fait, c'est un film qui est tout et pas n'importe quoi, mais je veux dire qu'il y a à la fois une romance, qu'il y a à la fois un film d'horreur, qu'il y a aussi un film sur la corruption à tous les niveaux. Qui fait presque de Hannibal Lecter, c'est pas le héros, mais enfin presque, parce que les gens autour de lui sont tellement pourris, encore plus pourris que lui, que c'est vrai qu'il a un rôle très particulier. On passe du Maryland justement à Venise, à Florence, pardon, et il y a ce côté, ce choc culturel de l'Europe, évidemment, qui est le berceau de la culture, et c'est ça qui séduit Hannibal Lecter, parce qu'on le sait très bien, c'est un personnage qui est féru de culture. Et après, ça devient un film où la proie devient le prédateur, il y a un aspect clairement gothique, un côté opéra, avec la musique d'Hans Zimmer, que je trouve vraiment très très belle. Ouais, mais ici, je trouve vraiment que c'est une magnifique bande originale. Moi, je le trouve excellent.
Et jusqu'à son nom, il me pose problème.
Ok. Musique de chambre. moi, c'est un film que je trouve audacieux. Alors, il est extrême, mais il est complètement barré comme le bouquin. Mais il est, je trouve, plus réussi que le livre. Il est en fait extrêmement bien adapté. Et l'histoire, la romance qui est complètement rejetée par les gens entre Lecter et Clarice Starling, qui est abordée clairement dans le livre, est traitée d'une manière assez intelligente. Et même la fin, qui a un côté très grand guignol, mais la relation entre eux, il y a un petit côté touchant. Et moi, c'est une piste comme ça que personne ne s'attendait à ce qu'on parte dans un univers comme celui-ci. Et moi, je trouve que c'est totalement gonflé. C'est un film qui tient vraiment bien si évidemment on l'accepte, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que c'est un choix tellement tranché, c'est une disons on prend un virage alors à 180 degrés, c'est peu dire, et c'est vrai que il y a une partie du public qui est fan du Silence des Agneaux qui rejette complètement ce film, voilà, dont tu fais partie.
Alors moi j'ai un mot qui me vient immédiatement quand je pense à ce film, c'est grotesque. C'est-à-dire que moi ça me fait rire, c'est-à-dire que je m'emmerde pendant une heure, où vraiment je soupire, j'ai regardé Mora Venise cet après-midi, ben là c'est Mora Florence, hein, je me fais chier comme un rat mort. Puis alors après je suis mort de rire, je dis mais c'est quoi ce truc ? Les cerveaux décalotés, machin, que je te donne à bouffer ton cerveau et mon enfant comme c'est bon, la baie des cochons, là je sais pas quoi, oh là là. Non, moi je trouve ça, mais grotesque, et ouais... Je m'ennuie, après je rigole un moment, puis après je m'énerve, puis ah, va chier, cette saloperie.
Ah, pour moi, c'est, il y a de l'humour noir. Pour moi, c'est un film qui fonctionne extrêmement bien.
Non, mais, ce film a ses adeptes.
Oui, oui.
Ou je ne sais pas, à part toi. Non, c'est pas vrai.
Non, je pense qu'il n'y en a pas. Alors, c'était un gros succès. Hein.
Oui,
c'est...
mais forcément que c'était un gros succès.
Oui, mais alors encore bien plus important que le premier. Oui. Le premier a dû faire dans le monde.
Le Silence des Agneaux, donc.
Ouais, a dû faire 200, 250 millions. Celui-ci a fait près de 400.
Ah oui, ça fait plus. Ah, j'aurais pas pensé.
Et puis, je trouve là-dedans, à part ça, moi, je suis assez fan d'Anthony Hopkins dans ce rôle. Il y a un côté Hannibal en liberté qu'il assume. C'est un autre Hannibal Lecter que celui qu'on voit dans Le Silence des Agneaux. C'est quelqu'un qui est justement plus féral, qui est beaucoup plus dangereux, qui est beaucoup plus aussi un côté humour noir qui est totalement exploité ici. Et sa performance est vraiment, vraiment excellente. Il a un charisme, il est extrêmement...
Ah non, mais lui est très bien. Je n'ai pas de problème avec lui. Et c'est tout
moi,
le reste
porte
qui me pose problème.
Oui, je vois bien.
Donc, et pourtant, j'ai essayé plusieurs fois.
Donc, tu lui mets, toi, alors...
Je lui mets un 3.
Quoi. Ouais, alors moi, je lui mets facile un...
3, et encore, hein, je suis pas élu, quoi.
Moi, je lui mets un 8. Ouais.
3,5 à tout péter, quoi. Et puis, alors, après, il y a Dragon Rouge qui arrive. C'est quelle année?
2003.
Donc, c'est très, très, très proche de d'Hannibal. Je me demande même si c'était pas déjà prévu.
Alors, vu le succès d'Hannibal, je pense qu'ils ont enchaîné direct. Hein.
Et Dragon Rouge, moi, je me souviens très bien d'être allé voir ce film au Corso à l'époque.
Moi aussi.
À reculons. Et puis, avec un plaisir, en me disant, je vais quand même retomber sur mes marques. Donc, je sais pas comment dire. Brett Ratner, c'est quand même pas un grand réalisateur.
Non.
Il a fait Rush Hour 1, 2, 3, et puis quoi d'autre, je sais pas.
Il a fait ce film de cambriole avec Pierce Brosnan. Enfin bref, ouais, non, c'est pas brillant.
Et du coup, je savais que j'allais être déçu parce que j'aime beaucoup le film de Michael Mann. Mais en même temps, je savais que ça se passait avant Hannibal. Donc on allait forcément se retrouver dans des marques exactement ce que je disais avant. Une suite qui est en l'occurrence un préquel du Silence des Agneaux, mais qui fonctionne exactement. Il y a le Dr Chilton. J'étais content de voir le Dr Chilton. La prison et machin. Je trouve que le casting est plutôt pas mal. Je ne suis pas convaincu avec Ralph Fiennes. Moi, je ne suis pas convaincu, mais voilà. Mais peut-être parce que Tom Noonan est tellement dedans que voilà. Il y a Harvey Keitel hein, qui reprend le rôle de Jack Crawford, qui est très bien. Le héros.
Edward Norton,
je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, qui reprend le rôle de Will Graham. Évidemment Anthony Hopkins, mais il y a Emily Mortimer qui reprend le rôle de Joan Allen.
Emily Watson,
absolument, j'ai dit quoi?
Mortimer, c'est une autre actrice anglaise qui lui ressemble un petit peu.
Qui lui ressemble un petit peu, mais elles sont les deux anglaises.
Oui.
Ça va, j'ai pas dit Emma...
Dit Black et Mortimer.
J'ai pas dit Black et Mortimer. Non. Et il me semble que j'oublie encore une ou deux personnes connues qui jouent.
Alors,
dans ce
machin. Alors il y a Philip Seymour Hoffman qui joue le journaliste.
Oui, qui finit sur une chaise roulante en feu.
Oui, exactement. Ouais. Et puis, oui, effectivement, il y en a encore un ou deux maintenant.
Donc, c'était un gros, 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 gros casting. Fin.
Oui, alors c'est même un des meilleurs castings de tout. Franchement, c'est excellent. Mmh. Et c'est vrai qu'on retrouve le directeur de la photo de Manhunter, c'est intéressant. C'est Dante Spinotti.
Donc, je savais pas.
Oui, il a travaillé. Il a d'ailleurs, dans le making-of, il critique même pas tellement Brett Ratner, le réalisateur, en disant qu'il avait fait du bon boulot. Mm. J'ai regardé très récemment le making-of, donc sur une année, tu vois, Brett Ratner, qui est un espèce de jeune chien fou, excité, enthousiaste, très à l'américaine, tout est génial, tout est super.
Everything is amazing.
C'est un peu ça. Puis les gens, tu te dis, mais ils le regardent de manière... oui, mais il me casse les pieds, celui-là. Et en même temps, il a l'air d'avoir un enthousiasme assez communicatif.
C'est
et
sur
il a...
le Blu-ray, le DVD, ça.
Oui, oui. Et il n'a pas peur du tout. C'est-à-dire, il y va, tu vois, qu'il dit non, Anthony Hopkins, on fait comme ci, comme ça. Puis il écoute vraiment les acteurs. Donc, il est pas bête. Il a un super script de Ted Talley. Il a Dante Spinotti. Il y a Danny Elfman à la musique, là, évidemment. Il n'est pas sur le plateau, mais ça aide aussi. Et puis, il a ses acteurs incroyables. Et puis, tu vois très bien dans le making-of, il les écoute et puis ils ont des très bonnes suggestions, puis ils les laissent aller. Et ce qui fait que tu sens que le gars, il a tellement du bon matériel dans les mains qu'il ne va pas se planter, parce que c'est quand même un pro. Mmh. Et c'est vrai que ce film n'est pas au niveau esthétique, au niveau même de la psychologie, n'est pas très profond. Par contre, c'est comme un page-turner, comme les romans de gare, tu le tournes. Mmh. Et alors, c'est ça, pour moi, c'est très différent du Silence des Agneaux. C'est-à-dire des Agneaux, est un film d'auteur.
C'est beaucoup plus
sérial, quoi. Et ici, on est dans quelque chose qui se consomme alors vraiment avec grand, grand plaisir. C'est vrai qu'Anthony Hopkins a un côté un peu plus encore théâtral, il en fait encore un petit peu plus, mais il le fait bien.
Hein. Je pense que là, clairement, il cachetonne.
Là, il vient, effectivement, il vient. Il voulait, je crois, terminer. Il est venu à cause de la qualité du scénario.
Mais est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire un remake de Manhunter ou pas? Non, je crois pas.
En fait, Dino Laurentiis voulait faire son Manhunter, enfin son Red Dragon, en l'occurrence. Hein. Et donc, ils ne se sont pas trop posé la question, ils sont allés de l'avant. Et c'est aussi un très, très beau succès, assez bien accueilli par la critique, qui, un peu comme tu le disais, on y va tellement à reculons, on se dit, ça va être un désastre.
Ah ouais, moi, je me disais, ça va être un désastre, et je ressors de là en disant, mais en fait, c'est exactement ce qu'on attendait d'une suite, quoi. Mmh. Honorable, bien réalisé, bien mis en boîte, tout le monde fait bien son job, c'est bien écrit, donc non, moi j'étais assez content. C'est après que ça se gâte.
Juste pour terminer sur ce film, il y a une partie que par rapport à ce qu'il... Bah, tu te parles de l'après, et c'est le début du film Red Dragon qui me fait penser à cet après, ce qu'il aurait pu être. C'est qu'on a un prologue où, en fait, le personnage de Will Graham vient pour un autre chercher un autre criminel, en fait, mais en fait il cherche Hannibal Lecter, mais il sait pas que c'est lui.
Oui, c'est juste.
Et vient consulter Hannibal Lecter qui
se rend compte que la vérité se rapproche de lui, puis qu'il faut qu'il désingue le mec, quoi.
Exactement. Et c'est un,
avec qui il a une bonne relation jusque là.
Oui, tout à fait. On voit qu'il l'aime beaucoup, hein. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, ah, mais l'après-quel, ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est peut-être le film où on voit Will Graham faire la connaissance d'Hannibal Lecter, se rapprocher de lui, et qu'on arrive à la confrontation ultime qu'on voit ici. Et c'est ça qu'on aurait voulu voir, mais c'est pas ça
qu'on nous montre.
C'est pas ça qu'on nous montre, non.
Un film qui s'appelle Hannibal The Origins, je crois, qui a réalisé
Hannibal Rising aussi.
Ah oui, non, Hannibal Rising en anglais, en français.
C'est Les Origines.
Hannibal, Les Origines. Pardon, qui c'est qui a réalisé?
Je crois que c'est Peter Weber, le type qui a fait The Girl with the Pearl Earring.
Qui avait eu un Oscar, d'ailleurs.
Ouais, ou je sais pas.
C'était pas mal, ça.
Ouais, ça va.
Avec Scarlett Johansson et puis. Comment il s'appelle l'acteur? Colin Firth. C'était pas mal.
Alors, c'est
Scarlett. Oui, alors, mais alors, bon, il n'y a rien qui va là.
Adapté aussi d'un roman de Thomas Harris.
C'est vrai? Qu'il a écrit après.
Alors, celui-là, je ne l'ai pas lu.
Qu'il a écrit après.
Il l'a écrit en 2000, je crois, 2006.
Alors, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai le souvenir de déjà Gaspard Ulliel, je ne suis pas convaincu que c'était la meilleure des idées. Mais bon, après, voilà.
Non plus.
Quelle idée? Pourquoi ils sont allés chercher ce gaillard? Je ne sais pas. Je me souviens de l'avoir vu s'amuser avec des sabres, faire du kung-fu en Asie pendant trois quarts d'heure. J'ai l'impression de regarder Batman Returns, ou je ne sais pas. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et puis après, c'est pire. Parce que ça se passe pendant la guerre. Après, je crois, sa sœur meurt, ou je ne sais pas quoi. Puis on comprend comment il est devenu. Enfin, c'était un désastre, quoi. Enfin, Rex 3, j'ai vu ça au Rex 3. On était quatre dans la salle, c'était le premier soir.
Je crois même qu'on était les deux.
Oui, c'est possible. Oui, je pense. À souffrir. Non, mais c'est un désastre. Franchement, il n'y a rien à sauver dans ce machin. Si,
il y a Gong Li qui joue la Lady Murasaki, ce qui est justement qui tombe, elle tombe amoureux, il tombe amoureux de cette femme, donc ce côté asiatique.
Mais est-ce que ça valait vraiment la peine de créer une mythologie à ce point-là au personnage? Je ne sais pas.
Alors déjà, pour moi, c'est une mauvaise idée. Bon, c'est personnel. Ça ne m'intéresse pas.
Mais l'auteur fait ce qu'il veut, comme tu as dit tout à l'heure.
Exactement. Mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où vient ce personnage. Ça m'intéresse plus de savoir, quand tu pars d'un point, où tu vas avec, puis de dire, voilà, la jeunesse d'Hannibal Lecter...
Il a vrillé. Tout d'un coup il a passé du côté obscur.
sa sœur s'est fait manger, en fait, hein, c'est ça le truc.
Elle se fait bouffer par qui déjà?
Par des soldats
qui crèvent de faim.
Ouais, exactement.
Ah, puis c'est pour ça que ça lui donne des idées. Alors il est choqué. Ouais, d'accord.
Ouais, c'est bon. Et puis il y a Rhys Ifans qui joue le méchant de l'histoire. Et c'est un film qui c'est extrêmement lisse. Il y a des moments violents, mais qui sont pas vraiment choc.
Gaspard Ulliel avec son rictus, là, il en fait des caisses.
Il est pas bon, je
trouve. Il est dans la retenue, mais il en fait des caisses quand même.
Bon, il a un
pauvre
physique
Gaspard
aussi.
Ulliel.
Ouais, il a un physique particulier. Je suis comme toi, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de casting. Mais
c'est un bon acteur, mais là...
Oui, il est excellent. Mais pour moi, là, ça fonctionne pas. Je m'ennuie
qui,
aussi.
Ils avaient changé.
Non, je dis Les Origines d'Hannibal Lecter. Et finalement, c'est un film qui se veut, je pense, alors plus européen, hein, évidemment, avec le pédigré, puisque ça se passe effectivement on est plus dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, etc. Pour l'avoir revu, je me suis ennuyé de la même manière.
Ah, tu l'as
revu,
oui, tu l'as revu, toi. Ouais. T'es...
J'ai pas trouvé. Parfois, je me dis, on peut voir quelque chose d'intéressant. Et...
Ouais, alors Hannibal, je peux encore revoir. Mais là, c'est 2 sur 10, quoi. 2,2.
Ouais,
2,5.
C'est fait de manière compétente, mais il n'y a pas.
Comme dirait un ami à moi.
Mais il n'y a pas d'accroche, ce n'est pas très intéressant. Je sais pas, moi, si on fait peut-être une bêtise, mais si on regarde No Country for Old Men avec le tueur Shigurg. De Javier Bardem, ça ne
Mireille Mathieu.
Ouais, exactement. Ça ne m'intéresse pas de savoir d'où il vient, en fait.
Non, alors vraiment pas.
C'est ce genre, hein, de
parce
personnage.
Parce qu'il est tellement monolithique, de toute façon. Que...
C'est plutôt le mystère, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Alors, comme tu l'as dit, l'auteur ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, mais il n'a pas reçu là un grand succès, ni d'ailleurs, je crois, son livre a été, bien vendu, mais et le film se plante, hein. C'est un échec au box-office, et on n'est même
pas
étonné, non, effectivement.
J'en ai vu un pire, c'est Basic Instinct 2. À la même époque,
ouais.
qui était, ça, était aussi
vraiment,
c'était
vraiment
qui,
pas bien.
C'est vraiment mauvais, quoi. Et puis après, on ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une série télé avec Mads Mikkelsen, que j'arrive jamais à prononcer.
Mads Mikkelsen,
ouais. Ouais. Que moi, je n'ai pas du tout vu. Tout le monde m'a dit la même chose. On m'a dit, c'est tellement outrancier dans la violence qui vient de pire en pire, de manière exponentielle, que ça devient très pénible. Ce n'est pas très agréable. Donc, j'ai bâché avant de commencer, en fait. Donc, je n'ai pas vu un épisode. Donc, je ne peux strictement rien dire.
Oh, mais je ne vais pas faire très long. Simplement, c'est qu'on est plus dans le domaine de Hannibal. Donc, la série s'appelle aussi Hannibal. Donc, on est de nouveau dans cette...
Dans ce côté du Ridley Scott.
Voilà.
Donc. On est dans, ouais, alors, voilà. J'ai bien fait de
donc,
regarder.
Déjà ça. Mais alors, c'est puissance 10. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène macabre, on est dans quelque chose qui est... C'est étonnant que ce genre de truc passe comme ça à l'antenne, même si je parle d'une série. Mais oui. C'est vraiment extrêmement gore, sadique. C'est des visions démentes, mais qui mettent mal à l'aise, hein, vraiment avec des idées, mais vraiment, il faut se lever de bonne heure. Hein. Par rapport à Hannibal, c'est vraiment du léger hein, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté, moi j'ai vu les trois saisons, il y a un côté au début qui est extrêmement intéressant, parce que...
Bon,
là,
le casting, c'est plutôt une bonne idée, je pense.
On est quand même dans l'après-quel, justement, ici, ouais. Au début, hein. Et il y a donc Mads Mikkelsen qui est vraiment très bon, Jack Crawford, c'est Laurence Fishburne qui est tout ouais. À fait dans son affaire. Et alors, il y a un acteur qui est un acteur, je crois, anglais, c'est Hugh Dancy, qui est un Will Graham vraiment parfait, torturé, instable, extrêmement intuitif.
Tu m'énerves, tu me donnes presque envie de regarder.
Et je dirais, la première saison passe encore. C'est qu'ensuite, ça se gâte, en tout cas pour moi, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que ça devient de plus en plus... Mais complètement, tu l'as dit, outrancier. Et là, il commence à faire, dans la saison 2, poser les éléments du livre d'Hannibal. Donc, on commence à voir Mason Verger, sa sœur, parce que là, elle n'est pas dans le film d'Hannibal, elle le retrouve ici. Mmh. Et dans la saison 3, il y a Dragon Rouge, c'est-à-dire qu'il mélange Verger, etc. Alors, c'est sur le papier, on se dit, tiens, c'est intéressant de vouloir faire en 3 saisons, de prendre ces éléments. Il n'y a pas du tout Clarice Starling, mmh. Hein, ça, c'est autre chose. Et c'est sur le papier intéressant. Il y a des acteurs vraiment excellents. Ils sont tous vraiment très, très bons. Mais c'est tellement énorme et tellement violent pour être violent. On a l'impression d'être dans une espèce d'hallucination. Alors esthétiquement, c'est très beau. Mais moi, j'ai décroché parce que c'est trop pour moi. Alors je suis peut-être une petite nature. Peut-être que pour moi, le sommet de ce qu'on peut atteindre avec ce personnage, c'était dans Hannibal, le film. Mmh. Les 5 premiers épisodes, je crois que c'est David Slade, qui est un réalisateur intéressant, qui en réalise 1 ou 2, sont vraiment très bien. Et ensuite, ça part justement dans cette piste. Il y a aussi Gillian Anderson qui joue là-dedans. Il y a plein d'acteurs connus et très très bons qui viennent jouer là-dedans. Mais alors, c'était pas ma tasse de thé. J'étais extrêmement déçu. J'étais très très accroché au début. Et au fur et à mesure que ça avançait, j'ai eu beaucoup de peine à terminer cette série.
Bah oui, si on fait 3 saisons, il faut croire que ça marche.
Alors, ça a pas mal marché, mais pas assez. Ils étaient prêts pour une 4e saison. Au bout d'un moment, au niveau scénaristique, ça devient mais abracadabrant. C'est juste pas possible. Et on a l'impression que le créateur Brian Fuller essayait d'aller jusqu'au bout de ce qui était permis pour voir jusqu'où il pouvait aller, qu'on le laissait faire des choses. Puis pour finir, il s'est dit, bon, bah, je fais n'importe quoi.
C'est pire que Dahmer.
Ouais, non, mais vraiment.
Parce que alors, Dahmer, moi, je suis toujours pas arrivé à bout. Hein,
non, non.
Dans le genre... C'est bon, on a compris,
non,
c'est pas la peine
ça,
de...
Ça se veut un petit peu document, docu-film,
ouais.
Ça se veut un peu
ouais,
ça.
Ouais, c'est un peu le prétexte.
Alors
de...
qu'ici, c'est une espèce de truc baroque avec des tableaux. Donc, c'est vraiment très, très particulier. C'est intéressant, mais il faut vraiment s'accrocher.
Ouais, donc je crois que je commencerai pas. Il y a combien d'épisodes par saison ?
Je crois qu'il y en a 13.
Ouais, bon, ça fait quand même beaucoup de temps d'investir pour un truc qui va me gonfler. Et puis, moi, je ne savais pas, tu m'as appris ça juste tout à l'heure avant qu'on commence d'enregistrer ce podcast qui intéresse tout le monde, qu'il y a une série sur Clarice Starling qui est arrivée il n'y a pas longtemps.
Mais
où ça ? Sur Netflix, non ?
Non, c'était un truc CBS, en fait.
Ah oui. Mais c'est une mini-série ou c'est...
C'était prévu que ce soit une... C'était en 2021.
Ouais.
Et c'était prévu de faire une nouvelle saga. Ouais. Et puis, en fait, ça s'est planté. L'actrice, je jette un œil sur son nom parce que c'est Rebecca Breeds, parce que je ne la connais pas. Il n'y a pas d'acteur extrêmement connu.
Mais ça se passe avant le Silence des Agneaux.
Ça se passe après. En fait, on après, est juste,
ouais, entre,
on est juste...
entre Hannibal et...
Non, ça se passe juste après le silence des agneaux, ouais. C'est-à-dire que le pilote, simplement, elle s'en est sortie, c'est une survivante, elle va voir un psy, elle essaye de se remettre de son trauma, parce qu'évidemment, c'en est un, et elle est récupérée pour enquêter sur des crimes, et là, c'est presque une affaire par épisode. Donc, ça devient un truc typiquement de ces séries CBS,
oh,
tu
oui,
vois.
Je vois le genre. L'actrice
pour moi n'est pas mauvaise, mais elle n'a pas vraiment de charisme. La mise en scène, c'est vraiment c'est très très lisse, c'est pas très intéressant. Je veux pas juger l'ensemble de la saison parce que je te dis, j'ai regardé le pilote.
Il n'y a qu'une saison en fait.
Il n'y a qu'une saison, ouais. Et ça s'est ramassé. Et c'était pas vraiment une excellente idée. Disons, ça aurait pu être une bonne idée, mais alors il aurait fallu faire quelque chose qui est plus ancré sans doute dans l'univers, peut-être essayer quelque chose quand même avec Hannibal Lecter. Et c'est vrai que dès qu'on enlève Hannibal Lecter de l'équation, ça devient un petit peu compliqué.
Ouais, c'est comme si tu enlèves Dark Vador de Star Wars, on a vu ce que ça donne. Hein.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
C'est un peu ça. Et t'as vu ça, on a fait beaucoup moins long que d'habitude.
Pourquoi pas ?
Bah, c'est bien.
C'est bien.
On s'arrête là ? Ou on débrief ou... Non,
on s'arrête. On peut s'arrêter là ?
Ben oui, une fois on s'arrête là. Allez, c'est pas que vous avez beaucoup de choses à faire. Et puis, par contre, si vous voulez qu'on fasse plus long, vous dites, mais en général, on nous dit qu'on fait trop long, alors on a fait un peu moins d'une heure, on verra ce que ça donne. C'était notre joyeuseté d'épisode à propos de Hannibal Lecter. Ah non, on a oublié un truc.
C'est...
On a oublié un truc qui pourrait presque faire partie des devoirs, c'est qu'on a oublié de parler d'un truc de Thomas Harris.
Ah, si tu veux parler du romancier.
Oui, juste de mots, parce que mais je crois que c'est le seul autre livre qu'il a écrit. Il n'a pas été très prolifique.
Non.
Son premier livre s'appelle Black Sunday, et ça a été adapté au cinéma. Ça n'a rien à voir avec Hannibal Lecter. Ça a été adapté au cinéma en 1977 par John Frankenheimer, dont vous avez déjà entendu le nom si vous suivez ce podcast depuis le début, hein, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup parce que tout ce qu'a fait John Frankenheimer est intéressant, à part ce machin, Croix Shader et puis Anne-Margrette, là, que les gens délirent, mais moi je
Pick
déteste.
Up,
ouais, c'est horrible,
non, c'est
ce machin.
Pas, non.
Et c'est un film, avec Mart Keller durant sa carrière américaine. Donc quand on pense Mart Keller aux États-Unis, on pense tout de suite à Marathon Man et à Bobby Deerfield. On oublie très souvent Black Sunday, qui était un film produit par Robert Evans. C'était un gros truc. C'est entre un film catastrophe, un thriller. C'est très moderne, je trouve, dans les thématiques. Il y a Bruce Dern dedans, il y a Robert Shaw, je crois que c'est son dernier rôle avant qu'il meure, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film assez redoutable. Moi, je trouve, toi, tu es un peu moins fan que moi. Moi, je trouve que c'est un film absolument palpitant que j'avais vu à l'époque sur France 3, un jeudi soir à 20h30. Je pense
c'était
parfait
typique pour ce genre
ouais,
de soirée.
Typique France 3 qui passait ce genre de truc. Un espèce de si vous aimez les films américains des années 70, alors plus serial que des films du nouvel Hollywood, Black Sunday, pour moi, c'est vraiment le grand oublié. D'ailleurs, le film est complètement indisponible sur territoire européen. Il est sorti aux États-Unis, on le trouve, mais chez nous, c'est absolument introuvable. Enfin, je sais pas, toi, t'aimes un peu moins que moi, je crois. Hein.
Non, mais j'aime bien. Alors, je trouve dans la réalisation, avec ce côté, on est assez distant, ça fait très réalisation film catastrophe.
Mais moi, j'osais pas dire, ça me fait penser au Toboggan de la mort, mais il y a un
c'est
côté, vraiment, ouais, complètement. Ouais.
Par contre, avec des acteurs qui sont quand même très très bons.
Oui, et puis des personnages qui sont quand même des sacrés tordus. Quoi.
Exactement, c'est
parce
vraiment
que,
vicieux.
En fait, Mart Keller, c'est une terroriste palestinienne, je crois. Et dans la scène d'introduction du film, Robert Shaw, qui est un agent du Mossad, qui va sur une opération pour dézinguer des terroristes palestiniens, l'épargne, parce que c'est une femme. Il la laisse partir, et dès qu'il la laisse partir, il se dit « j'aurais pas dû la laisser partir, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, elle va me retomber dans les pattes ». Et en fait, il se donne comme une espèce de mission jusqu'au boutiste, limite absurde, d'arriver à la choper. Et elle est devenue un peu une citoyenne honorable aux États-Unis. Elle est accoquinée avec Bruce Dern, qui est un ancien du Vietnam et qui pilote des zeppelins avec une caméra au-dessus des stades de baseball américain. Et je peux vous laisser imaginer la suite. En tout cas, il y a une scène là-dedans, une scène d'hôpital qui est absolument effroyable. Rien que d'en parler, là aussi, j'ai les poils qui se dressent dans le front. Ou alors, si vous pensez que Mart Keller n'est pas crédible dans la peau d'une terroriste, alors nom de Dieu, je ne peux pas dire autrement, mais elle est, mais waouh, quoi. Et cette scène, je crois, a inspiré Tarantino. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que pour Kill Bill, ça, il s'est inspiré de cette séquence qui est absolument incroyable. Je pense que si vous cherchez Black Sunday, qui s'appelait, je crois en français, un dimanche terrifiant, c'est un titre absolument débile, même si ce n'est pas sorti officiellement chez nous, C'est un film Paramount, donc je pense que si vous... Sur Paramount Channel, il passe très souvent. Et puis, si vous grattez un tout petit peu, vous allez tomber dessus. Et si vous êtes fan du Toboggan de la mort, de tous ces films 70s, c'est vraiment le grand oublié, à mon avis. Et c'est un film qui va, que vous allez adorer, ne serait-ce que pour le casting. Voilà.
Et puis, petite précision quand même.
Oui, vas-y.
Thomas Harris a écrit encore un dernier roman qui s'appelait Carrie Mora en 2019. Je ne l'ai pas lu.
Qui n'a rien à voir avec Hannibal, lecteur.
Non, apparemment pas. Non.
Donc, il a écrit 6-7 livres, c'est tout.
Voilà,
quoi.
C'est ça, oui.
Incroyable. Bien, eh bien, on arrive quand même gentiment à une heure. J'espère que cet épisode vous a informé sur certaines choses que vous ne saviez pas, diverti. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit de le dire. Mettez-nous des commentaires, on s'en fout, des pouces bleus en haut, en bas, mais dites-nous que ça vous a énervé, que ça vous a plu ou pas. Et puis, on va revenir après les vacances avec un petit Stephen King, je crois, parce que je suis bientôt bon. Là, je suis dans
c'est
les
bon
clous.
Ouais, d'accord.
Ouais,
okay.
Je suis bon. Donc, je pense que ce sera ça. Stephen King sans le fantastique, hein, c'est ça qu'on oui a décidé de faire. Voilà. D'ici là, bon vent, bonne Pâques, et comme dirait Belmondo...
C'est ma fille, c'est ma très grande fille.
C'est bon, je ne savais pas quoi dire, mais c'est exactement ça. Mais c'est Julie.
C'est ma
Sophie
fille.
Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah c'est ma petite fille. Voilà, allez,
allez,
à bientôt.
Bye.